Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Bonsoir, Michel Philippot. Heureux de vous accueillir sur Bretagne 5, dans votre rendez-vous dominical, la plume est à vous. Une émission confinée cette semaine, comme il se doit, et tout entière produite à distance, avec le précieux concours technique de Frédéric Guyon pour la réalisation. Ce soir, un texte de Jean-Edgar Loix, un auteur que nous avons déjà accueilli dans La plume est à vous, un auteur très secret dont je sais bien peu de choses, sinon qu'il vit en Bretagne et qu'il préserve jalousement sa sphère privée. Redécouvrons donc Jean-Edgar Loix à travers cette nouvelle pleine d'une tendre ironie, une nouvelle proposée ce soir aux fidèles auditeurs de La plume est à vous, sous le titre « Archibald ou l'hôtel des Bleuets ». Archibald possède un pas rapide et régulier, une moustache gris-fer d'employé préfectoral et une sorte de gros matou café au lait baptisé avec grand à-propos Tigri. Outre qu'avec constance et fidélité, Archibald occupe, depuis la nuit des temps, la même chaise paillée derrière la porte 9 du couloir B de la préfecture de A. Vous saurez aussi qu'il apprécie la musique classique, Mozart surtout, dont il admire, dit-il, la géométricité et le génie calculé. Vous connaîtrez tout d'Archibald lorsque vous saurez qu'il demeure avenue des Aubépines, une étroite ruelle que bordent deux ou trois arbustes étiques, qu'il raffole s'entretenir de la pluie avec Mademoiselle Carbel, sa voisine de gauche, une solide jeune fille de 55 ans, et qu'il ne déteste pas échanger avec M. Hopkins, son voisin et ami de droite, quelques propos bien sentis sur le beau temps, dont M. Hopkins, vieillard british et rhumatisant, prétend évaluer les plus subtiles variations au craquement de ses jointures. Archibald, enfin, habite seul le numéro 2 de l'avenue des Aubépines et lorsque d'aventure le boucher ou encore Madame Bévent, la jolie boulangère, lui remontre qu'à son âge et le temps courant, il devrait tout de même bien songer à prendre femme. Il esquive d'un mouvement de la main qu'il ponctue d'un petit « bah, 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 bah » signifiant sans doute « ne gâchons pas, voulez-vous, ces quelques belles années qui nous restent ». Bref, Archibald, à 58 ans, glissait imperceptiblement, année après année, jour après jour, minute après minute, sur la pente qui tout droit le conduisait rejoindre ses deux cousins germains, grands prêtres et ordonnateurs de la CCVE. En clair, la confrérie des célibataires volontairement endurcis. La confrérie admettait uniquement les hommes, étant entendu que seuls ces derniers disposaient à discrétion du pouvoir de prendre volontairement et en connaissance de cause la salvatrice décision de ne se pas marier. Les femmes non mariées, quant à elles, n'avaient à l'évidence pas pu se marier. Quant aux épouses, il était reconnu qu'elles avaient fatalement succombé au charme de quelques mâles entreprenants ou tout simplement patients. Les statuts de la confrérie précisait d'ailleurs très clairement ces différentes vérités. Au demeurant, Archibald, d'esprit peu aventureux en ce domaine, n'en avait jamais douté. La dernière assemblée générale de la CCVE avait vu se dégager une tendance nettement progressiste au sein de l'association. Tout un courant soutenu par des membres récents avait renversé la majorité et 25 années d'habitudes anodines qui, au regard de cette gravissime situation de crise, avait soudain revêtu une importance capitale et pris sur le champ valeur de symbole. Ainsi, d'un commun accord, les membres les plus anciens de la CCVE avaient-ils toujours tacitement reconnu que chez eux, comme dans les locaux de la confrérie, il fallait pour la bonne marche du monde que les commutateurs électriques, sur une même plaque de commande, fussent toujours tous réglés vers le bas en position marche et vers le haut en position arrêt. Cela pouvait sembler anodin, voire ridicule, ou techniquement impossible. Mais pour Archibald et ses élateurs, cela touchait à des lois supérieures sans lesquelles l'univers tout entier aurait été voué au chaos. Il avait fallu qu'un jeune contestataire s'en prenne publiquement à cette innocente pratique. « J'y vois », avait-il déclaré solennellement, la voix vibrante, le signe d'un amollissement. Que dis-je ? Une atteinte symbolique, mais très grave, au dynamisme de notre association. « J'y vois », avait-il poursuivi, et s'étant interrompu pour chercher parmi les miettes dans un amoncellement de feuillets manuscrits, celui de sa philippique, un tonnerre d'applaudissements avait salué son intervention. Au bout de quelques minutes d'une recherche vaine, il s'était tout simplement rassis, se contentant de saluer modestement de droite et de gauche. Oh, la locution, pour courte qu'elle eût été, se révéla efficace. Au scrutin qui suivit, le jeune contestataire aux dents longues ravit haut la main le fauteuil convoité de la présidence. Au désespoir de M. Gramoni, cousin d'Archibald, vénérable et vénéré président de la CCVE depuis sa fondation 15 années plus tôt. La situation s'était toutefois modifiée au cours de l'année écoulée. Archibald, un moment bouleversé, s'était bientôt ressaisi. Mais concrètement, qu'ont-ils fait, pensa-t-il, en enfilant un caleçon fraîchement revenu de la blanchisserie. Hein ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le déferlement réformiste s'était cassé le nez sur l'aile blanche de la confrérie. On était allé jusqu'à suggérer que les rencontres hebdomadaires où l'on pratiquait le plus sérieusement du monde l'art consommé de la belote, fussent remplacés par des séances de piscine. on nageait dans l'absurde. Même, le traditionnel banquet annuel, un rite quasi sacré, n'avait pas échappé à la vague séditieuse. Plus de banquet. Une grill party avait préconisé, en usant de l'accent ad hoc, l'aile factieuse de la confrérie. Bon, en fait, rien n'aurait été fait, conclut-il in petto. Toutes ces belles idées fumeuses, elles avaient fait long feu. Soulagé, Archibald émit un léger soupir de satisfaction. Les choses retourneraient bientôt à la normale. On pourrait à nouveau respirer. Il y avait eu 50 candidats à la première séance de natation. mais les effectifs s'étaient cependant très vite amenuisés. Le nouveau président s'était obstiné jusqu'au jour où, s'étant trouvé seul avec la monitrice, il s'était résolu, la rage au cœur, à annuler l'expérience. Quant à la grill party, on l'avait achevée derrière les baies ruisselantes de la salle de réunion, où l'on avait fini par cuire les brochettes à la poêle. C'est en sifflotant qu'Archibald se préparait afin de se rendre à l'Assemblée Générale de la CCVE. On renouvellerait le bureau. Il ne faisait à peu près aucun doute que les jeunes loups s'étant émoussés les dents, on reviendrait cette année à une vision plus raisonnable, plus sereine, bref, que la majorité, la seule, la vraie majorité, pensa Archibald, reprendrait naturellement les commandes. Il faudrait un nouveau président ayant de l'expérience, de la pondération, le sens des responsabilités. Et lui, Archibald, n'avait-il pas tout cela? Qui sait? Qui sait? Songea-t-il rêveusement. D'un hochement de tête vertueux, il balaya cette vision, détourna les yeux du miroir dans lequel son regard s'attardait. Une dernière fois, il se lissa les cheveux, assura machinalement le nœud de sa cravate délicatement entre pouce et index, enfila une paire de gants noirs et coiffa son melon gris. Ainsi appareillé, il se sentit prêt à affronter le destin qui peut-être s'ouvrait à lui. Une trace d'émotion dans le regard, Archibald allait enfin sortir, lorsque, tandis qu'il introduisait sa clé dans la serrure, après avoir soigneusement vérifié la position des commutateurs, résonna dans le vestibule le timbre du téléphone. Archibald hésita. L'appareil persista. Curieusement, ce n'était pas la sonnerie aigrelette, impérieuse et mal élevée, qu'on aurait pu attendre. Non. C'était... Comment vous dire? Ah, c'était une mélodie. Oui, c'est cela même. Une mélodie qui s'envolait, qui s'enroulait en volute capiteuse. Ah, l'appel irrésistible et envoûtant des nymphes naufrageuses. Agacé néanmoins, Archibald entra à nouveau dans le vestibule. Il ne détestait rien de tel que ces dérangements de dernière minute qui bouleversaient un horaire minutieux et les plans établis. Se dirigea vers l'appareil, décrocha le combiné, la mélodie s'éteignit. Brutalement, Archibald s'aperçut qu'au bout du fil, une voix lui parlait. Il bafouilla. Comment? Mais, madame, oui, bien sûr. Non, pas encore. Oh, entendu, madame. Il raccrocha, l'œil vide, l'air atterré, les épaules voûtées. Archibald se retrouva dans la rue, non sans avoir scrupuleusement contrôlé par deux fois la fermeture des portes et des fenêtres. lorsqu'il parvint au siège de la CCVE, la réunion était sur le point de commencer. On l'avait attendu. Il prit la place d'honneur qu'on lui avait naturellement réservée au premier rang. Archibald n'avait regardé personne, n'avait parlé à personne, n'avait vu personne. Archibald ne semble pas dans son assiette, chuchota en se frottant les mains un membre tout récent de la troisième rangée. Quelques-uns se retournèrent, foudroyant l'importun du regard. Il prit une mine profondément contrite et se tint coi. On procéda aux élections. Le résultat ne surprit personne. Avec 75% des voix, Archibald devenait le troisième président de la CCVE. Un tonnerre d'applaudissements l'accueillit au micro. « Chers amis, commençait-il quand le calme se fut fait, je suis très content, enfin, je suis extrêmement heureux. Oh, mais enfin, Archibald, si brillant d'ordinaire, bredouillait son discours. Oh, ce n'était pas l'orateur des grands jours. On se regarda. On regarda Archibald. Non, décidément, il n'était pas dans son assiette. En se cognant à chaque mot, Archibald rappela, tant bien que mal, les quelques règles fondatrices de la confrérie. Il insista en particulier sur un point des statuts tombé en désuétude et que lui, Archibald, avait à cœur depuis des années de faire valoir à nouveau. Quiconque perdra, égarera ou se fera dérober l'insigne sacré de notre confrérie, commença-t-il. Archibald s'était arrêté pour donner à sa période le sens profond qu'il voulait qu'elle contînt. La médaille figurait à son avers un magnifique bœuf d'argent en relief et son revers arborait le sigle CCVE en lettres artistement entrelacées. On la portait épinglée au revers gauche du veston. Elle était obligatoire et, en théorie, requise pour participer à toutes les réunions, les manifestations qui se présentaient. Archibald poursuivit.
Oui, alors, tous ceux qui pourraient se faire dérober l'insigne sacré, eh bien, seront déchus pour une durée de 5 ans de tous les droits, privilèges et avantages garantis aux membres de notre belle et grande confrérie. »
Sur cette généreuse envolée lyrique, quoique hésitante, Archibald conclut son discours. La locution finissait en complète queue de poisson, et même ses partisans les plus fervents éprouvèrent un petit goût d'inachevé. On l'applaudit néanmoins, coulant furtivement à la ronde des regards embarrassés et interrogatifs. Décidément, ce n'était pas l'Archibald des victoires et des triomphes. Non, vraiment, plus on y songeait, plus il était clair qu'Archibald couvait quelque chose. D'ailleurs, il regagna sa place sans attendre la fin des applaudissements, répondit d'un air distrait et absent à ce venu le féliciter et partit précipitamment son champagne avalé d'un trait. Partout on chuchotait. Était-ce l'émotion de cette absolue victoire? Peu vraisemblable. Archibald était un homme fort, équilibré. C'est même pour cela qu'on l'avait élu. On échafaudait d'improbables théories. Le champagne aidant, les langues allèrent leur train. Mais on eut beau dire, le mystère demeura tel. Diable, quelle semblait longue l'avenue des Aubépines ce soir! plus que 6 numéros, pensa Archibald, en levant machinalement le nez au numéro 14 de l'avenue. Le 14. Le 14, répéta-t-il. Les tentures tirées masquaient parfaitement les fenêtres. Pas un ray de lumière ne filtrait, pas un son, pas la moindre révélation d'une présence. Archibald consulta sa montre. 10h20, déjà. Se sentit soulagé. Comme l'occupant du 14, dans moins de 5 minutes, eh bien, il serait au lit. L'occupant du 14, murmura-t-il, ou plutôt l'occupante. Ah, ce coup de téléphone lui semblait, maintenant qu'il y repensait, parfaitement incroyable. Il y avait si longtemps. Il fallait résister. Résister encore. Dans 5 minutes, il serait au lit. Et comme la veille, il reprendrait son livre de chevet et si je me trompais? Oh, il frissonna. Si elle allait être là, comme elle l'avait laissé entendre au téléphone, reprenant sa déclaration interrompue quelque 30 ans plus tôt, si elle allait l'attendre, là, chez lui, si les tentures du numéro 14 n'avaient été tirées que pour mieux endormir sa méfiance. C'était une femme. Elle avait toujours agi de la sorte. La ruse, c'était dans sa nature. Si elle allait s'aviser de le vaincre par surprise, de livrer une attaque imprévue, de sortir au dernier moment comme lapin d'un chapeau, son ultime botte secrète. Archibald se mit à courir. 12, 10, 6, 8, 4, 2, enfin, la porte, le havre, la sûreté. Une première volée de marche, puis une seconde, le palier. Son cœur à présent carillonnait très fort jusqu'à envahir la minuscule cage d'escalier. Dans l'obscurité, sa main tâtonna à la recherche de l'interrupteur. Il n'eut pas besoin de s'en servir. La lumière qu'il espérait maintenant se fit tout à coup. Elle était là, à peine différente, à peine plus âgée. Elle était là comme elle lui était apparue 30 années plus tôt à la terrasse de l'hôtel des Bleuets, dans sa petite robe de saison, avec ce sourire de communiante qui l'avait presque séduit sur l'instant. Des bribes de phrases enfouies lui accrochaient l'esprit, des images oubliées surgissaient, comme ce matin funeste où il lui avait répondu « Non, non, ce n'est pas pour moi. » Ce matin où il avait eu peur, ce matin où l'amour de sa liberté avait pris le pas. À sa façon seulement, Archibald lui était resté fidèle. 30 années et rien, absolument rien du secret n'avait transpiré. Avenue des Aubépines, nul ne se doutait que du 2 au 14, il se trouvait bien davantage qu'un simple tronçon de rue. Une alchimie invisible, qu'Archibald, du moins le croyait-il, avait fini par ensevelir sous le sceau du secret. Il n'avait pas échangé une parole en 30 ans. Il ne s'était, pour ainsi dire, pas vu. « Bonsoir, Archie.
Ah, ça aussi, il l'avait oublié. Il ouvrit sans répondre la porte de l'appartement. Incertain, debout face à face dans l'entrée, ils se regardèrent en silence. Puis, la mélodie des premières fois résonna à nouveau, aussi douce, aussi mystérieuse, aussi envahissante, aussi irrésistible, comme si le temps n'avait plus prise sur eux. Eh bien, vois-tu, j'ai réfléchi, dit Archibald, brisant à regret le regard qui les unissait. Et il l'attira soudain contre lui, sans même ôter son melon ni ses gants. Je dois passer un coup de fil, annonça-t-il à brûle-pourpoint quelques instants plus tard. Il revint presque aussitôt dans la chambre, foulant de ses pieds nus leurs vêtements épars. « Je viens d'égarer mon insigne. Ah, il fallait que je leur dise. »«
Ton insigne ? Ton insigne, mais quel insigne ?»
Il soupira, évasif, un léger sourire aux lèvres. « Je t'expliquerai. Un jour. »
Écoute un peu, écoute un peu, et ne bouge pas, de par Dieu, de par Dieu. Que veulent dire ces colères et ce geste de mauvais ton? Sont-ce là, monsieur, des manières qu'on doit avoir dans un salon, qu'on doit avoir dans un salon? Troubler ainsi l'éclat des fêtes dont je prends ma part pour ton bien. Nigo, Nigo, tu ne comprends donc rien, rien, rien. Mon Dieu, que les hommes sont bêtes, que les hommes sont bêtes, que les hommes sont bêtes, mon Dieu. C'est un défaut chez un mari, c'est un défaut chez un mari. Laisse-les donc finir ces fêtes, et puis après tu verras bien. Nigo, Nigo, tu ne comprends donc rien, 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 rien.
Mon Dieu, que les hommes sont bêtes! Peu flatteur, en effet, pour notre pauvre Archibald, amoureux transi qu'on ne sait s'il faut plaindre ou s'il faut moquer. Un air d'Offenbach, extrait de la Péricole et interprété ici avec tout l'humour piquant de Suzy Delair, une interprète immense et une actrice décédée en mars 2020. Elle avait 102 ans. La plume est à vous, c'est terminé pour ce soir. Je remercie chaleureusement l'ami Frédéric Guyon aux manettes et à la réalisation. Un travail particulièrement complexe en ces temps de confinement qui ne permettent pas de nous retrouver dans la convivialité des studios pour les enregistrements. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain à cette même heure dans La Plume est à vous. Vos textes restent précieux et attendus, ils sont à adresser à plume@bretagne5.fr en joignant vos coordonnées et une courte biographie. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine à l'écoute de Bretagne 5, à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.